Je vous propose aujourd'hui de prendre le deuxième livre des rois au chapitre 6. Deuxième livre des rois au chapitre 6 et nous lirons les sept premiers versets. Une histoire que nous connaissons tous, mais il est toujours bon de pouvoir nous y replonger et voir comment Dieu peut encore nous parler ce matin. Donc, 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, « L'endroit où nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit, « Allez-y. » L'un dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Est-ce que nous nous sentons à l'étroit au sein de notre communauté? Bien sûr, notre chapelle n'est pas fort grande. Et nous sommes très heureux de nous y retrouver chaque dimanche, pouvoir nous retrouver dans ce lieu de culte, d'autant plus que nous l'avons obtenu d'une façon très avantageuse grâce à la générosité de l'administration communale de Blégny. Ce lieu n'est pas fort grand, il est vrai, et quand certains dimanches nous voyons se remplir, j'entends déjà Albert qui me dit « J'espère que j'aurai assez mis de gobelets pour la Sainte-Seine. » Il a toujours peur de tomber à court de gobelets. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. J'espère qu'on y arrivera, que ce lieu vraiment devienne trop petit. Vraiment, nous espérons que ce lieu soit trop petit, que nous devrions repousser les murs. On voudrait voir des nouvelles personnes se joindre dans cette communauté, c'est notre désir, non pas pour le remplir, pour le plaisir de le remplir, mais en y accueillant des âmes qui ont besoin d'un sauveur et qui un jour puissent venir à la rencontre de ce sauveur. C'est notre espoir, c'est notre désir. Sinon, ça ne servira à rien de se réunir dans un lieu si nous voulons rester simplement entre nous, comme un club de bridge. On est très heureux d'être ensemble, et puis c'est nous, on veut que ce lieu puisse se remplir d'âmes sauvées. C'est notre désir. Donc, je me pose cette question, sommes-nous vraiment à l'étroit dans ce lieu? Pas encore, mais nous avons ce récit qui nous parle de l'étroitesse d'un lieu de culte. Nous avons ici Élisée, le successeur d'Élie. Élie et Élisée étaient quand même deux pointures au niveau des prophètes dans le pays d'Israël. On ne doit plus les présenter, il est connu dans tout Israël et même à l'étranger. Et il est entouré de ce qu'on appelle les fils de prophètes. C'est un groupe de disciples qui se réunissent pour adorer le Seigneur et recevoir une instruction sous la direction, bien entendu, comme il est dit, de prophètes. Et ces gens-là étaient sous la direction d'Élisée, qui les enseignait, qui leur apprenait, quelque part, leur futur ministère de prophète. Donc ce sont des jeunes qui se forment vraiment pour le ministère. Et bien entendu, quand on est jeune au service du Seigneur, l'on veut que cela bouge. Bien sûr, quand on est jeune, on est plein de force, plein de vigueur. On veut prouver aux anciens ce dont on est capable. On veut du changement, prouver qu'on n'est pas simplement là pour faire de la figuration. Et on veut servir le Seigneur d'une façon dynamique. Et quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, on faisait partie d'un groupe de jeunes qui était assez dynamique. On voulait, au sein de l'Église, faire beaucoup de choses. On était assez actifs au sein de l'Église. On voulait voir le réveil. On avait envie de rester ensemble, de prier, de bouger, de faire de l'évangélisation. En un mot, un peu dépoussiérer les meubles, hein, parce qu'on trouvait que les anciens n'en voulaient plus et qu'on avait envie, en fait, que ça bouge. Et parfois, j'ai eu certains plus anciens que moi qui sont venus me trouver, qui n'étaient pas un peu d'accord, pas trop d'accord de ce que je disais. Hein. J'en ai quelqu'un qui est là dans le fond de la salle, Achille. On a eu quelquefois des mots ensemble parce qu'on ne partageait pas toujours le même dynamisme, parce qu'il est un peu plus âgé que moi. Hein. Mais bien sûr, ça c'est un peu la jeunesse qui veut que ça bouge, qui veut vraiment du changement et tout ça. Et un peu ces jeunes-là, bien, ils avaient envie de voir leur lieu de culte s'agrandir. Ils espéraient que d'autres jeunes puissent se joindre à eux en tant que fils de prophète pour qu'ils puissent perpétrer cet enseignement. Et bien sûr, quand on est jeune, on ne vit pas au même rythme que les plus âgés. Les plus âgés ont quelque part un peu de la bouteille, et ils ont eu pas mal d'expériences bonnes ou mauvaises, et ils se rendent bien compte qu'il faut être prudent, même dans les choses de Dieu. Et parfois, mais quand on est jeune, on se casse un peu la figure, on va contre un mur parce qu'on veut aller trop vite. Et après, on se dit, quand on est plus âgé, on se dit, on a quand même fait des bêtises, on voulait bien faire, mais on s'est cassé la figure parce qu'on voulait aller trop vite, on voulait aller plus vite que Dieu parfois, plus vite que les autres. Dieu veut que l'Église marche ensemble, hein. Il ne voudrait pas, ce serait triste de voir un groupe comme au niveau des courses cyclistes, vous avez un groupe qui s'échappe et les autres qui essayent de les suivre, de les poursuivre et n'y arrivent pas. Nous ne sommes pas dans une course cycliste quelque part au sein de l'Église. Nous devons essayer de marcher tous ensemble dans le même rythme et en entraînant ceux qui sont peut-être à la traîne, sans les critiquer, mais en les aidant. Et je crois parfois, quand on est jeune, on fait un peu cette erreur-là, on veut aller avant, en tête, et on fait la course en tête, et puis il y a des gens qui sont un peu à la traîne et qui parfois ont du mal avec les choses qu'on voudrait leur imposer. Donc, il y a toujours une grande sagesse que nous devons avoir. Comme je disais, ces jeunes voulaient repousser les murs du lieu où ils se trouvaient. Et le fils des prophètes s'approche d'Élisée, lui faisant remarquer que ce lieu devient trop étroit parce qu'ils sont nombreux. Et il pense qu'il est temps d'agrandir. C'est la décision que les jeunes avaient prise entre eux. Ils avaient discuté entre eux, dit, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on doit agrandir ce lieu, faire quelque chose? Mais malgré leur jeunesse, ils ont quand même une certaine maturité. Ils ne veulent pas se lancer seuls dans cette aventure. Ils veulent en référer au prophète, car ils savent à qui ils ont affaire. C'est un homme qui a été choisi par Dieu, qui a été oint par Élie sous le commandement de Dieu, donc c'était quelqu'un qui était établi, qui avait une certaine autorité dans le pays d'Israël. Et il ne voulait pas se lancer tête baissée dans ce projet sans son accord. Il est leur responsable, donc il le consulte en leur expliquant qu'eux se sentent à l'étroit. Et que je crois qu'Élisée avait compris, il s'est dit oui, c'est vrai, en effet, on est à l'étroit, il faut s'agrandir. Et qu'il est temps de le faire. Je pense que le prophète devait être heureux de voir ces jeunes impliqués dans le service, avoir cette vision missionnaire. Ils étaient animés d'une vision missionnaire. Et non seulement cela, mais il est aussi heureux de voir que ces jeunes demandent conseil aux responsables pour voir ce qu'ils en pensent. Et de ne pas le mettre devant le fait accompli. Parfois, dans l'Église, certains décident de faire quelque chose, ça ne part pas d'un mauvais principe, mais on fonce tout seul. On n'en parle pas aux responsables. Et puis après, on se rend compte que l'on n'est pas suivi, ce qui provoque parfois des divisions au sein des Églises, parce qu'on veut travailler en solitaire. Et je trouve que c'est vraiment une preuve de maturité spirituelle de la part de ces jeunes-là, Et nous devons en prendre de la graine, nous, afin de, si nous avons des projets, si nous avons des idées, de ne pas faire cavalier seul, mais d'en faire part au responsable et de travailler avec toute l'Église. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu avance et que nous attirons la bénédiction du Seigneur sur notre Église. Travailler ensemble, ne pas faire cavalier seul et avoir le respect des responsables, ça, c'est important pour nos assemblées. Comment Élisée ne pouvait-il pas donner son accord face à cette belle initiative de cette jeunesse? Et comme ils ont l'accord, ils se lèvent pour aller couper des poutres, pour commencer les travaux. Mais l'un d'eux propose au prophète de les accompagner. Serait-il peut-être plus spirituel que les autres? Je ne voudrais pas aller jusque-là, mais il voulait que le prophète, qui a été oint par Dieu, vienne avec eux pour accomplir ce travail. Bien sûr, Élisée n'allait certainement pas couper du bois, mais il allait les superviser le travail, peut-être leur donner des conseils. Quelle leçon pour nous? Nous prions souvent d'accomplir un travail pour le Seigneur et Dieu nous donne cet accord. Et parfois, on est tellement sûr de nous que nous partons tout seuls. Ah, merci Seigneur, merci. Allez, au revoir Seigneur, je vais accomplir ce que tu as, ce travail avec ton accord. Mais parfois, on veut faire plus que Dieu ne voudrait. Et on part parfois sans lui, sans prier, sans vraiment demander toujours à Dieu la bénédiction sur le travail que nous allons accomplir, sans demander à Dieu sa protection. Et parfois, nous ne connaissons pas les embûches qui sont sur notre chemin, parce qu'il y en a. Quand on accomplit un travail pour Dieu, il y a toujours notre ennemi qui est derrière nous pour nous mettre des entraves, des embûches, pour que quelque chose de grave puisse se produire pendant que nous travaillons. Une dispute entre frères et sœurs, un désaccord, ou alors un problème technique qui va nous énerver. Tous ces obstacles-là peuvent entraver le travail. Et si nous partons sans demander à Dieu d'être, de nous accompagner, nous pourrions nous casser la figure. Alors demandons toujours à Dieu de nous aider quand nous accomplissons quelque chose pour son Église. Ces jeunes-là, je ne pense pas qu'ils étaient tous bûcherons ou menuisiers. C'était peut-être des bricoleurs du dimanche et qu'ils avaient besoin de se soutenir les uns les autres. Quand nous travaillons pour le Seigneur, notre expérience n'est pas toujours un gage de réussite parce qu'on part parfois travailler pour Dieu dans son Église en disant, oui, mais c'est pas la première fois que j'accomplis tel travail. C'est pas la première fois que je témoigne. C'est pas la première fois que je dois prendre la parole. Et je pense que chaque fois que nous faisons une activité, nous devons le prendre comme si c'était la première fois que nous accomplissions cette activité. Dire, Seigneur, j'ai de l'expérience, j'ai de la bouteille, mais j'ai besoin de toi. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'attend quand j'accomplis tel ou tel travail pour toi. Et c'est une grave erreur, frères et sœurs, de parfois se fier sur nos expériences. Nos expériences sont utiles, mais nous devons nous dire que chaque fois que nous travaillons pour le Seigneur, l'ennemi a toujours un plan bien établi pour nous contrer. Et nous voyons que le travail commence, ils ont le cœur à l'ouvrage, ils vont entreprendre une grande œuvre pour le Seigneur, ils vont agrandir leur salle de réunion, ils se remplissent de joie pour le servir, c'est formidable. Les gens, on est ensemble, quelle belle ambiance. Et puis, un incident regrettable vient de survenir, et la joie du travail pour Dieu se ternit. Un jeune vient de perdre sa hache. Le fer est déboîté et tombe à l'eau, catastrophe. Que faire? Il ne peut plus travailler. En plus, l'outil ne lui appartenait pas, nous a-t-il dit. Il l'avait emprunté. Et j'en viens à ceci, c'est quand nous travaillons pour le Seigneur, nous devons avoir nos armes spirituelles, nos propres armes spirituelles, non pas les armes du voisin. Bien sûr, nous sommes tous ensemble quand nous accomplissons quelque chose. Mais c'est mes armes à moi qui doivent me servir et pas celles du voisin. Je ne dois pas compter spécialement sur mon voisin. Je dois compter sur mes outils spirituels. Et ça, c'est très important. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Revêtons-nous de toutes les armes spirituelles quand nous entreprenons quelque chose, quand nous travaillons pour le Seigneur. Soyons revêtus de nos armes afin de combattre efficacement. Ce jeune garçon n'avait pas son outil et l'outil qu'il avait n'était pas en état de marche. Quel drame pour les chrétiens quand nous ne sommes pas armés correctement. Nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas aller au combat en comptant sur les autres, frères et sœurs. Nous devons posséder toutes nos armes. Notre attirail doit être en parfait état de marche. Rappelez-vous l'histoire des 10 jeunes filles vierges. 5 avaient de l'huile et 5 avaient oublié d'en prendre. Soyons vigilants et prévoyants. Vérifions si nous avons tout notre équipement, tout notre matériel, que rien ne nous manque. Et pour cela, je vous conseille de relire cet épître, chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, afin de faire l'inventaire de tout notre attirail spirituel. Voyons vraiment s'il ne nous manque rien pour combattre. Parce que notre ennemi, lui, il est armé jusqu'aux dents. Alors à nous d'avoir les armes spirituelles pour travailler. Et voilà que le jeune homme a le bon réflexe d'appeler Élisée. Il ne se jette pas à l'eau pour aller récupérer le fer de la hache. Il aurait pu essayer de plonger et d'essayer de le trouver, essayer de voir où il aurait pu se trouver et le reprendre. Non. Il fait appel à Élisée. Et c'est un conseil pour nous quand nous perdons pied, quand nous travaillons pour le Seigneur, quand nous sommes dans plein travail et que quelque chose ainsi nous arrive. Eh bien, n'essayons pas de nous débrouiller tout seuls. N'essayons pas de puiser avec les forces qui nous restent, mais crions à notre Dieu afin qu'il nous secoue. Nous avons besoin de son aide dans ces moments-là. Rappelons-nous, frères et sœurs, que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et Élisée intervient afin de solutionner son problème. Et remarquons qu'il ne lui fait aucun reproche. Il ne lui fait aucun reproche en lui disant « Tu n'as même pas vérifié si ta hache était bien fixée au manche. » Il ne lui fait pas de reproche en lui disant « Mais tu n'avais qu'à acheter ta propre hache. » Non. Élisée est plein d'amour quand il intervient. Il a l'air de lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » Et quand nous chutons, Dieu vient à notre rencontre. Il nous demande de lui faire confiance, car il est la solution dans les cas les plus désespérés. Et Élisée coupe un morceau de bois, nous le voyons, et le lance en direction de l'endroit indiqué. Et défiant toutes les lois de la physique, le fer surnage et il peut le récupérer. Reprends ton outil, remets-toi au travail, fixe-le comme il faut cette fois-ci, afin de ne pas le perdre. Ce qui vient de se produire là, c'est un pur miracle de la part de Dieu. Nous le comprenons bien, c'est quelque chose d'impossible physiquement. Mais Dieu intervient dans les cas les plus difficiles. Quand nous chutons, frères et sœurs, que nous perdons notre outil de travail, que faire ? Crier vers Jésus. Lui aussi, il a accompli un miracle avec un bois, le bois de la croix. Par ce miracle de la croix, nous avons la victoire dans toutes nos chutes, dans toutes nos difficultés. Il a porté toutes nos souffrances, nous a-t-il dit. Il a porté sur la croix tout ce qui était une entrave à la bénédiction pour nos vies. Il s'en est chargé. Et maintenant, quand nous nous trouvons dans cette difficulté, regardons à l'œuvre de la croix. Et là, nous avons la victoire. Nous aurons, comme ce fils de prophète, parfois des accidents de travail. Nous ne sommes pas à l'abri de tout cela à cause de nos imprudences. Car, frères et sœurs, il est vrai, nous ne sommes pas toujours attentifs quand nous entreprenons un travail pour Dieu. Alors ne comptons pas sur nos forces, mais crions à Jésus, car à la croix il a porté toutes nos défaites, il a porté toutes nos erreurs. Il est celui qui seul peut nous secourir et nous aider, à reprendre notre marche et notre travail. Oui, ce matin, frères et sœurs, travaillons afin de repousser nos murs. Prions afin que Dieu agrandisse ce lieu. Et il ne le fera pas sans nous. Il veut nous utiliser pour accomplir ce travail. On prie au Dieu, fais ceci, fais cela, mais Dieu dit, oui, je vais le faire, mais avec toi, avec les armes que tu as reçues, on va accomplir de grandes choses. Travaillons avec notre matériel en état de marche, et lui nous aidera à ce que cette communauté se développe pour sa gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis cette communauté, Seigneur. Notre désir, c'est de voir ce lieu trop petit, voir de nouvelles âmes venir à toi, se tourner vers toi, car nous savons que ce monde se perd sans toi. Et notre désir, c'est de voir des hommes et des femmes, des jeunes comme des plus âgés, venir à ta rencontre, connaître la vie que le Christ peut leur apporter. Ô Seigneur, nous te demandons de bénir cette communauté, de la rendre prospère, mais surtout aussi qualifie-nous. Donne-nous toutes les armes spirituelles afin de contrer l'ennemi. Seigneur, merci, parce que nous croyons que tu vas bénir cette communauté. Amen.